Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech, on va vous parler des Galaxy S23, de l'explosion de l'IA chez les GAFAM et peut-être un petit peu de burn-out aussi. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. J'allais dire bienvenue chez Patrick, mais c'est un petit peu ça en fait. Vous arrivez dans ma maison, je vous accueille, je vous déplie une chaise, vous mettez à la table, on est quelques dizaines de milliers à se retrouver toutes les semaines pour parler de tech et d'actu et de choses intéressantes. J'espère en tout cas, c'est l'épisode numéro 499. Attention à un épisode de l'épisode 500, et je suis donc Patrick Béja. J'ai le grand bonheur de recevoir deux de mes plus anciens camarades de podcasting, Jérôme Kainborg et Cédric Deloca. Bonjour d'abord, Jérôme, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, ça va très bien, ça va très bien.
Mais tu viens de passer toute la discussion avec la chatroom là sur Twitch avant qu'on lance l'enregistrement, à me dire que t'étais presque en burn-out, que t'en pouvais plus, qu'il y avait des parquets...
Oui, normal, quoi.
Ça donc va. C'est le quotidien, d'accord. Très
bien. Tout va bien, ouais. Oui, oui, quotidien, inondation, chaîne YouTube à gérer, TikTok, etc. La vie, quoi.
Très bien, très bien. Cédric Deloca, est-ce que c'est la vie pour toi aussi ? Est-ce que tu as des inondations, des TikTok à gérer, tout ça ? Est-ce que tu es presque en burn-out ?
Non. Pas du tout, tout va bien, voilà, non vraiment, tout va bien,
tranquille.
Je suis sur des projets passionnants, donc c'est génial.
Je suis heureux pour toi, tu fais partie de cette minorité qui vit bien, c'est fou.
Mais oui, mais oui.
Je dis ça, mais en même temps, c'est complètement contraire à ce que je pense. Mais avant de parler justement de ce que je pense et du prochain épisode pendant une seconde. Je voudrais remercier Thomas Ries, Julien Monti, Thomas Bidot, Steph 500, Benoît Labarthe, Denis Calert, Akono Loïc et Baptiste Baron, qui sont les Patriotes qui ont rejoint l'émission. Je crois qu'on est en début de mois, donc il y en a qui ont réactivé leur abonnement. Merci à vous tous et à vous toutes, et merci aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous tous, vous permettez à cette émission d'exister. Presque 500 numéros, rendez-vous compte. Alors, ce n'est pas tout à fait 500 semaines, parce qu'au début, on le faisait une fois toutes les deux semaines, on était en bimensuel pendant très longtemps. En réalité, on a commencé en mensuel, et je crois qu'au bout d'un ou deux épisodes, on s'est rendu compte que mensuel, c'était vraiment trop disparate. Et donc, on est passé en bimensuel, mais l'hebdomadaire, en fait, ça n'a commencé qu'en 2018. À la naissance de mon fils, je me suis dit oh, « ça va être simple, on va passer en hebdo ». Et bon, c'est donc pas tout à fait... le rythme s'accélère, en fait. D'ici à l'épisode 1000, on sera passé à quoi ? On fera un épisode par jour, un truc comme ça.
C'est moi l'épisode par jour.
Mais oui, c'est le mug, c'est vrai. Bon, le créneau est déjà pris. Mais du coup, on arrive à l'épisode 500. Je voulais prévenir les gens, quand même. Peut-être que pour l'épisode 512 en binaire, on fera un truc un peu plus gros, mais j'ai pas un énorme programme pour l'épisode 500. On fera quand même un petit truc sympathique. Mais vraiment, on parlait de burn-out en plaisantant tout à l'heure et pendant l'intro. J'ai essayé de m'éviter justement ce genre d'écueil, en particulier depuis que j'ai des enfants, on sait qu'on a moins de temps et moins de liberté. Et vous avez remarqué que j'ai réduit la voilure sur d'autres émissions, d'autres activités podcastiques pour pouvoir me concentrer vraiment sur le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu et les faire bien. Donc quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout gérer pour bien faire les choses, j'ai arrêté certaines émissions en anglais notamment. On est un petit peu dans cette configuration avec l'épisode 500. Je vous avoue que je n'avais pas l'énergie d'ajouter à ma charge mentale pour faire un truc vraiment digne de cet événement absolument mémorable que sera l'épisode 500. En plus, ça tombe le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Moi, je trouve que c'est un signe.
C'est un truc récurrent chez tous les créateurs de contenu quand on arrive à des chiffres symboliques. Mmh. En fait, la plupart te diront c'est horrible.
Ouais.
Parce que tu sais qu'il faut, tu sais qu'il faut faire un truc un peu exceptionnel. Mmh. T'es dans ta routine où t'as pas le temps de prévoir un truc exceptionnel. Et c'est Joueur du Grenier qui a sorti son épisode des 10 ans un an après. Enfin, il y a voilà, c'est très dur pour le créateur de contenu, parce que ta communauté attend beaucoup, parce que c'est un chiffre symbolique, et ouais. Toi, t'es là, mais j'ai juste pas le temps, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire.
Un petit peu, ouais. Des idées, j'en aurais eu, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Enfin, ça aurait pas forcément été compliqué à mettre en place, mais c'est... Vous vous souvenez de cette... Il y avait un mème qui avait beaucoup circulé au milieu de la pandémie, avec quelqu'un qui disait... Enfin, il y avait deux images. Une première avec quelqu'un qui portait le poids de différents soucis. Enfin, le boulot, la pandémie, je sais plus ce qu'il y avait, les problèmes de santé, machin. Et puis, l'image d'après, c'était quelqu'un qui ajoutait un petit souci en plus, genre, il va falloir... j'en sais rien. Il va falloir préparer un truc pour la semaine prochaine. Et le type, il s'écroule. Et on lui dit, mais enfin... T'es quand même hyper sensible à découler juste pour ça, tu vois. Et c'est un peu dans ce genre d'optique que je me dis, bon, on va se calmer, ça va, mais pour l'épisode 500, on va pas faire un truc foufou. Bref, tout ça pour dire, prenez soin de vous, vous aussi, dépassez pas vos limites, parce que c'est sur le long terme, il y a tellement de gens autour de moi qui font des burn-out et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Faites comme Cédric, soyez tranquille. Vivez votre vie pleinement et tranquillement avec des beaux projets, si vous pouvez, mais n'en faites pas trop, quoi.
Après, il y a une petite astuce, Patrick. Moi, le mug, j'ai arrêté de mettre des numéros. Comme ça, personne peut me dire « Ouais, pour le numéro 1000, il faut faire un truc exceptionnel. » Oh, je ne savais pas, je n'étais pas au courant.
Très bien. Bon, écoute, peut-être que d'ici le numéro 1000 du rendez-vous tech, on aura arrêté de mettre des numéros, on mettra des dates. J'y ai pensé, d'ailleurs. Mettre des dates, c'est plus simple. Mm. Mais au numéro 1000, enfin, pareil, il faudra faire au 1024, pas au 1000. Le 1000
voilà.
Bon. Tout ça pour dire qu'on aura quand même un petit moment sympathique, hein. On va faire des petits trucs, hein, mais rien de foufou. Et les trucs foufou, c'est ce qui se passe dans cet épisode, puisqu'on va vous parler de différentes choses, dont... Alors, le Galaxy S23, je vous avoue qu'on va en parler parce qu'il faut un peu, mais il y a des trucs encore plus excitants qui arrivent après. Et oui, dans le domaine de l'IA, mais lançons-nous. Galaxy S23, il fait partie des informations à retenir. Et je dis « ils » et ça devrait plutôt être « ils font partie » puisqu'il y en a trois, comme toujours, comme chaque année chez Samsung. Le S23, le S23 Plus et le S23 Ultra. Il se trouve que un YouTuber de talent et de renom a fait une prise en main sur YouTube, notamment. Et il pourrait peut-être nous parler de ces appareils. Dis-nous ce que tu en as pensé, Jérôme, puisque tu les as eu un petit peu en main. Il y a quelques trucs que je retiens, mais je vais te laisser parler pour fêter l'épisode presque 500. Tu vois, je romps avec la tradition et je laisse parler les gens. Il est comment ?
Écoute, c'est plus une année de consolidation comme on les connaît, pas de... Si, il y a quand même une révolution, mais qui passionne surtout les technophiles, c'est effectivement l'exit de l'Exynos, puisque c'était quand même un problème récurrent avec les Galaxy ces dernières années. L'écart de performance entre les Qualcomm Snapdragon, qui étaient les processeurs qui équipaient le reste du monde, et les processeurs Exynos qu'on se coltinait, je crois que c'est en France. C'est quoi déjà les pays qui avaient l'Exynos?
Il y avait quelques pays en Europe. C'était une
ouais, quelques
partie.
Pays en Europe qui avaient l'Exynos, qui avaient des performances quand même qui étaient moindres, et ça commençait à se voir, ça commençait à devenir vraiment pénible. Donc Samsung resserre les rangs, c'est Snapdragon pour tout le monde. Donc ça, c'est un motif de satisfaction, parce que c'est quand même un sentiment pénible quand t'achètes le même modèle que ton voisin, mais qui a pas les mêmes performances.
Et puis le même modèle au même prix surtout.
Ça, voilà, c'est... même modèle au même prix et que t'as pas le même smartphone. Donc là, pour le coup, Samsung, même si c'est mauvais pour leur division microchip, je pense que Samsung a pris la bonne décision. Après, ils auraient pu prendre l'autre. Bah, Exynos pour tout le monde. Mais,
bon, vu qu'ils mais sont moins je sais pas, c'est... Oui, c'est pas.
Ouais, voilà. C'était pas évident. Après, moi, je trouve, il y a très légères évolutions en design, mais quand même, on arrive à un design très minimaliste, un vrai effet de gamme, intéressant. Les prix sont inflationnistes, on va dire. on a à quelques dizaines d'euros près, on a les prix Apple. Donc là, on est tout à fait dans la stratégie Samsung. Nos produits sont aussi bien que ceux d'Apple. Regardez, on est au même prix. Donc ouais. Ça ne me surprend pas.
On va de 1 000 000 d'euros ouais. à 1 800 euros pour le plus gros S23 Ultra. Donc oui, on est dans ces ordres.
On est dans les ordres de grandeur. Bon, après, comme d'habitude chez Samsung, les prix vont dégringoler tout de suite derrière. C'est pour ça que je le dis à ceux qui veulent acheter, n'achetez jamais un Samsung à sa sortie. Les gens de Samsung me détestent quand je dis ça, mais...
les gens de Samsung le détestent. Découvrez pourquoi.
Payez-moi et je dirai autre chose.
entre parenthèses, vous pouvez précommander pour économiser 150 euros. Il sort le 16 février.
Ouais.
Et si on précommande, on économise un petit peu d'argent et je crois qu'il y a une augmentation de la
mais
taille
déjà, ou, c'est, du stockage. C'est là qu'on voit qu'ils sont pas hyper à l'aise avec cette histoire de prix, quoi, en fait. C'est que si tu précommandes, tu payes déjà moins cher et si tu l'achètes un mois après, tu paieras 200 de moins et 4 mois après, il sera à moitié prix, quoi. Enfin,
c'est ça. Et là, Cédric a tout à fait raison. En fait, le prix chez Samsung est une donnée marketing de lancement. Exactement. Pour dire qu'on est aussi bien que les iPhones, mais c'est abandonné, comme tu le dis, Cédric, dès la précommande, quoi.
Exactement.
Ouais.
C'est histoire de se montrer qu'ils se positionnent comme ça, mais si dès la précommande, c'est pas déjà le bon prix, bah voilà, c'est vraiment purement un argument commercial, c'est rien d'autre.
Tout à fait. Alors, dans les points positifs, les galaxies ont toujours été excellents en photo. Là, ils ajoutent 200 mégapixels. Je ne vais pas saouler tout le monde sur 200 mégapixels, ça ne sert à rien. En fait, 200 mégapixels, ça sert si tu sais t'en servir. Donc, en fait, ça intéresse une toute petite niche de la photo d'avoir autant de mégapixels.
Il y a quand même leur fonctionnalité qui fait que quand il y a assez de lumière, ils font du bon pixel binning en réunissant les pixels pour faire une photo plus lumineuse, enfin avec des pixels plus lumineux, et quand il y en a... Enfin, pardon, c'est le contraire. Ils utilisent chaque pixel individuellement et quand il n'y a pas assez de lumière, ils font du pixel binning et ils réunissent la lumière des différents pixels pour avoir plus de luminosité. C'est pas une bonne utilisation automatique, ça ?
Non, mais d'accord. Mais à ce moment-là, autant te limiter comme Apple aux 50 mégapixels. En fait... Ils veulent afficher 200 mégapixels sur leurs affiches et sur leurs fiches de spec. Je ne dis pas que ça ne sert absolument à rien, mais combien de personnes prennent des photos au smartphone qui vont imprimer sur des affiches 4x3 derrière ? Combien ? Alors, en fait, c'est là où il y a une opportunité ratée, je le dis rapidement, c'est que Apple a fait un truc malin avec les 50 mégapixels qu'ils ont adopté cette année, c'est de permettre un espèce de zoom qui n'est pas un zoom numérique ni un zoom optique, mais qui est une espèce de zoom sur le capteur. C'est-à-dire de faire du x2, du x3 sur un capteur de 50 mégapixels en croppant sur le capteur. Et ça, ils ne l'ont pas mis dans le S23, en tout cas pour l'instant. Ça permet en gros de faire des zooms qui auront une qualité équivalente à un zoom optique, juste en te basant sur le nombre de mégapixels de ton capteur. Voilà.
C'est ça, en fait, tu diminues la taille globale de l'image.
Voilà.
En zoomant dans l'image, mais sans la déformer. Et en fait, c'est ça la...
Sans perdre
c'est
de
ça
la
petite astuce pour créer ce...
En gros, c'est comme si tu croppais dans une image dans Photoshop, tu zoomais dans une image que tu as déjà un grand nombre de mégapixels. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé que le 200 mégapixels était extrêmement bien intégré. Après, là, ça fait quelques jours que je l'ai en main, je le teste. C'est quand même très bon en photo. Y a des modes pro et des modes raw. Là, pour le coup, ça met une bonne claque à Apple. Là, je le dis, en photo, Samsung, techniquement, parce que c'est subtil de dire quel est le meilleur photophone, mais techniquement, Samsung a une grande largeur d'avance sur Apple au niveau de la technicité des photos. Voilà, il me faudrait 3 heures.
Le 14 Pro Max, et je trouve que c'est déjà incroyable, et surtout la vidéo, moi je fais beaucoup de vidéos avec. Et c'est dingue, le mode cinéma est hallucinant. Enfin, je filme mon fils qui fait de la trottinette. Hein. Ouais. Mais je vous jure que ça donne une dimension cinématographique à tout ce que vous faites.
Ouais. Alors justement, j'ai bien dit photo. En vidéo, pour moi, Apple garde toujours une... L'écart se diminue de plus en plus. Les derniers Samsung ont l'air bons en vidéo. C'est pas en faisant de la 8K qu'ils vont rattraper Apple. C'est avec de la meilleure stab, et là elle est un peu meilleure cette année. C'est par l'écosystème, comme tu le dis Cédric, c'est aussi en intégrant des flous, enfin du mode portrait en 25-30 images secondes. C'est un outil puissant. Le problème après de Samsung, c'est souvent l'écosystème photo et vidéo qu'il y a autour, qui n'est pas aussi performant que l'écosystème qu'il y a sur iOS. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de dire meilleur photophone, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent quand même. Hein. Et là, j'ajoute un dernier truc. Là où ils enterrent Apple, c'est l'intégration du zoom optique x10. Qui est bien intégré cette année, et ça te donne tellement plus de possibilités en photo que c'est quand même vraiment bien de l'avoir, en tout cas sur le modèle Ultra. Tu le payes cher, mais ce zoom x10, il ne va pas falloir qu'Apple tarde trop à mettre un zoom au moins x7, mieux x10 dans les iPhones.
Vous remarquerez qu'on ne parle pas énormément de caractéristiques techniques, parce que d'une part, on a l'habitude avec les différentes gammes, et puis d'autre part, c'est devenu, à part la question du processeur Exynos contre Qualcomm, c'est devenu presque superflu. C'est un petit peu le cas dans tout ce marché. Alors, on ne va pas vous parler de taille d'écran et de, à part la question de la photo, qui est vraiment le point sur lequel tout s'insiste aujourd'hui. Le processeur, c'est un Snapdragon 8G deuxième génération pour ceux que ça intéresse. Les tailles d'écran, c'est comme d'habitude, ça va de 6,1 pouces à 6,6 pouces. Je crois que c'est le Ultra qui a du 120 Hz.
Les deux ont 120 Hz, mais il n'y a que le Ultra qui peut descendre à 1 Hz en LTPO.
Ah d'accord, donc il peut économiser sa batterie.
Le non-Ultra, il descend, je crois, jusqu'à 40, je voudrais pas dire de bêtises, 48 Hz.
Mais est-ce que le S23 fait du 120 Hz aussi, ou est-ce que c'est que le plus
élevé? Oui. Les trois montent à 120 Hz, mais c'est juste la latitude pour descendre en Hz.
D'accord, pour économiser de la batterie. Et du coup, le truc qui est vraiment notable, ça on le rappelle, c'est que le S23 Ultra a un stylet intégré, ça remplace un petit peu le Note, en fait. Il a un stylet intégré, donc c'est vraiment un outil supplémentaire. Sur ce point, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à revoir. Quand on disait qu'ils insistaient sur la question de la photo et de la vidéo, j'ai noté pendant la présentation à quel point il y avait plein de réalisateurs qui venaient, enfin des vrais réalisateurs de cinéma qui venaient montrer les films qu'ils avaient réalisés avec un S23. Donc, ils ont mis l'accent sur ça au niveau marketing. Il y a aussi l'aspect nous sommes très verts, nous sommes recyclage, nous sommes protection de la nature, sur lequel ils ont beaucoup insisté.
Ils avaient déjà commencé ce virage-là avec les télévisions, avec le carton réutilisable, les télécommandes sans pile qui fonctionnent avec
des batteries
en solaire.
Ah oui.
Non, solaire.
Ouais, enfin, il y a une batterie dedans quand même. Mais,
oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en gros, on n'a plus besoin de changer quoi que ce soit. On ne jette plus des piles comme on faisait avant avec une télécommande. Ils avaient déjà un peu amorcé ce truc-là. Et pour venir vite fait sur la 8K, évidemment que ce n'est pas en mettant de la 8K qu'ils vont faire quoi que ce soit, surtout chez nous en Europe, étant donné que la législation va être très, très stricte sur justement les appareils, les téléviseurs qui affichent de la 8K, etc. Puisqu'il est prévu normalement une interdiction de... tout simplement de vente de ces produits-là sur le territoire européen. Donc,
interdiction de vente des télévisions 8K sur le territoire européen.
Oui, c'est le Parlement européen qui travaille sur ce projet de loi-là, parce que c'est anti-écologique, ça ne sert à finalement rien, on est sur de la surconsommation. Si demain Netflix se mettait à diffuser de la 8K au lieu de la 4K, ça deviendrait vraiment problématique même pour les réseaux, et du coup, fatalement, l'impact écologique de la 8K est tellement énorme qu'en gros, on ne veut pas retomber dans le débat qu'on a eu avec la 5G sur tout ça, et que bah, l'Europe dit, si on veut être en accord avec notre politique de réduction des émissions, bah, la 8K, c'est vraiment anecdotique, en fait, ça ne sert à rien.
Après, il faut le dire, parce que c'est souvent ce qu'on dit, nous qui réalisons des vidéos, on tourne jamais dans la résolution de diffusion. C'est-à-dire que, par exemple, filmer en 8K, ça peut être intéressant pour faire de la 4K, en fait, derrière.
Ouais, il y a cet élément, mais qui est un élément... Donc, il peut avoir un intérêt pour le téléphone si lui, il peut filmer en 8K, même si la diffusion ne se fait pas en 8K. Puisque tu parles...
Vas-y, pardon. Non, là, j'étais en train de rentrer dans des détails trop techniques.
De 8K et de diffusion. Puisque tu parles de loi, je vous invite à... Je suis sûr que quand Samsung dit on fait des trucs verts et ça va être super, je suis sûr que beaucoup se disent « Ah ouais, ok, le greenwashing, c'est bon, on connaît. » Et certainement, il y a cette intention. Enfin, j'imagine que beaucoup de sociétés ont cette intention. J'ai été assez surpris de constater à quel point la loi AGIEC est sévère sur ces questions.
Ah oui.
J'ai l'impression que c'est une chose dont on ne se rend pas bien compte. Peut-être que tu as suivi la chose, toi Cédric, tu disais « Ah oui, mais ma femme qui s'intéresse à ces choses-là pour des questions professionnelles me dit « Mais c'est incroyable à quel point ça verrouille les choses. » Et en gros, je schématise grandement, en plus de plein de choses qui sont possiblement plus utile au quotidien pour les utilisateurs. Enfin, si vous connaissez Triman et ce genre de choses, c'est hyper pratique sur vos emballages de tout. Vous avez maintenant des instructions claires pour comment recycler et qu'est-ce qui se recycle et quelle partie va où. Mais à côté de ça, les entreprises aujourd'hui ont, je schématise, interdiction de greenwasher. Et vous allez me dire, oh, bah, attends, c'est beau, enfin, là, c'est d'une précision et d'une sévérité incroyable. Ce qu'il y a dans la loi AGIEC, allez regarder un petit peu les textes, c'est hyper... C'est pas juste, bon, vous pouvez pas greenwasher parce que c'est pas... C'est, non, c'est... Vous ne pouvez pas dire nos emballages sont meilleurs pour l'environnement. Non, ça veut rien dire. Il faut pouvoir prouver les trucs, il faut chiffrer, il faut dire précisément, exactement, pour que les gens comprennent. Si vous voulez dire qu'il y a un truc qui est vert, vous avez intérêt à pouvoir le backupper derrière. Et je peux vous dire que les amendes de la DGCCRF, les boîtes, et enfin pas que ça, mais les boîtes s'en préoccupent très sérieusement quand on vient sonner à leur porte. Donc, j'étais surpris parce que j'en avais pas vraiment entendu parler, mais la loi AGIEC, ça rigole pas quoi, à ce niveau-là. Donc peut-être que le greenwashing va être au minimum un petit peu plus difficile à faire ces prochaines années.
Bah, surtout que toutes les instances sont compris.
Je crois que Cédric voulait ajouter quelque chose.
Par exemple, Apple qui fait souvent de son argument de « on utilise de l'aluminium recyclé, blablabla ». En fait, aujourd'hui, maintenant, ils sont devenus juste factuels. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des conférences en expliquant pourquoi c'était mieux pour l'environnement et c'était génial, en omettant de dire qu'en fait, ça coûtait aussi surtout beaucoup moins cher que de faire du vrai aluminium neuf, parce qu'il y a aussi une raison économique sur le fait d'utiliser l'aluminium recyclé. Alors évidemment, c'est vertueux, c'est cool et tout ça, mais ça faisait très greenwashing. Aujourd'hui, en fait, ils ne peuvent plus faire ça. C'est-à-dire que s'ils disent on utilise de l'aluminium recyclé, ils peuvent pas dire que c'est parce que leur aluminium est mieux ou quoi que ce soit, ou que c'est un vrai argument commercial. En fait, ils n'ont plus le droit de le faire. C'est pour ça que maintenant, c'est simplement factuel.
C'est hyper précis. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire « Ouais, c'est mieux pour l'environnement. » Tu ne peux pas. Il faut que tu dises « Nous utilisons... »
Un iPhone n'est pas mieux pour l'environnement, factuellement. Ouais. Donc, du coup, ils ne peuvent pas dire « On utilise l'aluminium recyclé. Du coup, c'est mieux pour l'environnement. » Non, faux. Voilà.
Ouais. Et c'est la loi AGIEC qui impose ça. La France, par exemple, va beaucoup plus loin que le reste de l'Union européenne, qui va déjà assez loin. Donc, c'est un truc que le reste de l'Union risque de suivre. Bref.
Il y a un truc quand même important pour comprendre à quel point les choses changent aussi. Ces trucs-là, ça ne marche pas s'il n'y a pas des sanctions. Et on a souvent rigolé dans le rendez-vous tech des sanctions, des comités français, des trucs européens qui se chiffraient en centaines de milliers d'euros et que ça faisait rigoler Google. Aujourd'hui, ils ont compris un truc. Quand tu tapes dans le chiffre d'affaires de ces entreprises, elles commencent à te prendre au sérieux. Parce qu'une entreprise comme Apple, tu prends rien que 1% du chiffre d'affaires d'Apple, ça fait très, 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 très mal.
Et donc, toutes les lois aujourd'hui sont écrites avec et la sanction financière peut se monter à X% du chiffre d'affaires global de la boîte. Et ouais. Là, tout de suite, tu prends effectivement les choses beaucoup plus au sérieux. Et on avait raison d'en rigoler quand on disait ils ont eu une amende de 100 000, 500 000, 1 million. Ils s'en foutent. C'est des pièces pour eux. Mais quand tu commences à parler de pourcentage de chiffre d'affaires, et donc dans les lois qui sont écrites aujourd'hui, c'est ce genre de sanctions qui sont imposées.
Ouais.
On a également un autre élément que je voudrais évoquer pour revenir un petit peu sur les Galaxy S23. Il y a le mode maintenance qui est pas mal, qui est un mode qu'on peut activer. Quand on donne son téléphone à réparer, eh bien, le téléphone ne peut plus avoir accès à toutes les données privées, vos photos, vos applications, etc. Et du coup, on n'a pas le stress de se dire « Ah bah merde, il faut que attends, je désactive tout, j'enlève, et puis je vais peut-être le perdre, machin. » Non. Le mode maintenance, c'est assez bien pensé, mais c'était un détail. Il y a un truc qui m'a encore plus marqué. On parlait d'écosystème tout à l'heure. Et j'ai trouvé qu'avec le Galaxy Book 3, qui est une renaissance des ordinateurs marque Galaxy, du coup, on a maintenant un écosystème entre les téléphones, les montres, les écouteurs et les ordinateurs, avec des passerelles qui ont été établies pour le transfert de fichiers, de photos, etc., avec une surcouche Samsung à Windows, qui commence à faire un vrai écosystème qui est peut-être pas comparable à celui d'Apple non plus, parce que chez Apple, ils font vraiment tout de A à Z, mais qui commence à être, je trouve, assez convaincant. Et du coup, qui place Samsung, aujourd'hui, après des années de tentatives et peut-être de réussites discutables, dans la position du concurrent d'Apple, non pas au niveau de la qualité des appareils, même si ça peut être le cas, mais vraiment dans l'idée qu'on peut avoir un écosystème avec ce constructeur. Et il y en a plusieurs qui ont essayé. Même Google, je trouve, n'y arrive pas aussi bien. Enfin, c'est mon impression que Samsung. Et là, pour le coup, on a une vraie alternative là où il n'y en avait pas vraiment à Apple parce qu'ils ont un vrai écosystème.
Et je dirais, moi qui ai vu justement, c'est le truc qui m'a le plus positivement surpris lors de la présentation, c'est ils sont arrivés non seulement à faire un écosystème qui est très cohérent, mais avec des innovations que Apple n'a pas. Je donne un exemple, si tu achètes un Galaxy Book 3 et que tu as un S23 Ultra, tu peux, en tant que photographe, directement recevoir des photos RAW, qui sont des photos énormes, directement sur ton ordinateur pendant le shooting, pour pouvoir les traiter directement sur l'ordinateur. Tu vois, ils ont réfléchi à des usages. Connecté,
quoi, directement.
Exactement, ouais.
Comme tu ferais, pardon, donc, t'as pas bien entendu, Cédric ?
Ah, comme avec un réflexe connecté, en fait.
Oui,
directement en USB ou autre.
Ouais.
On voit beaucoup de photographes pro faire ça, en fait.
Et tu vois, je donne un autre exemple. Ils ont même réfléchi aussi à comment communiquer avec les autres appareils. Chaque fois qu'on va à ces présentations où, honnêtement, on a les smartphones quelques minutes dans les mains, moi, j'essaie toujours de faire quelques photos et quelques vidéos. Mais après, comme on doit laisser les appareils chez Samsung, hein, on les remporte pas chez nous, c'est une tannée pour essayer de récupérer les fichiers rapidement. Là, ils ont mis en place un système avec un QR code. Tu le shootes avec un autre appareil, type Apple, et tu récupères tes photos du Samsung direct sur ton iPhone. Tu vois, c'est des choses qu'il n'y avait pas en 2022 et qu'ils ont ajouté en 2023. Donc, oui,
c'est rigolo. Parce qu'en fait, Nokia le faisait à l'époque.
Oui, je me souviens. Ouais.
Où on pouvait sauter un QR code ou en récupérer la photo. En fait, c'est bien de remettre le truc au goût du jour. Ouais.
Mais tu vois, c'est complètement un autre sujet. Mais nous, et je me souviens très bien de toi, Cédric, qui faisait beaucoup de choses avec les QR codes et tout. Mm-hmm. Tu étais pionnier. C'est marrant, la revanche du QR code.
Mais c'est incroyable.
La pandémie a signé la revanche du QR code. Maintenant, tout le monde les utilise, quoi. C'est fou.
Ah, mais oui, c'est fou.
Ouais.
Bon, du coup, je crois que c'est un petit peu le tour pour le Galaxy S23. Très bon appareil, comme on le disait. Peut-être mentionner un truc qui est semi-marrant. Le système d'exploitation et les applications par défaut prennent 60 gigas d'espace sur l'appareil. Donc, bon, je crois que Windows, c'est genre 30 gigas, un truc du genre. Donc, bon, voilà. Prenez ça en compte si vous voulez acheter. N'achetez pas le plus petit d'entre eux. Je ne sais pas quelle est la taille.
128 gigas. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Écoute, j'espère qu'on peut en désinstaller parce que le plus petit S23 normal, c'est 128 gigas. Donc...
Ah mais Android, c'est quoi? C'est entre 15 et 20 gigas max.
Oui. Ben écoute, Samsung rajoute des trucs. Bon, c'est tout pour le... Oui, ils vont aussi développer avec Qualcomm des choses pour la réalité augmentée et réalité étendue, etc.
Ouais. Ça faisait quand même petite annonce de fin de conf. Hé, ouais. Les gars, on a un truc aussi. Si jamais Apple sort un truc, nous aussi, on aura un truc, quoi.
On en a déjà parlé, ouais, c'est ça. Ouais. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est le traditionnel « It's AI time ta, », ta, 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 ta. C'est le moment de l'IA qu'on a depuis à peu près 6 mois, tous les épisodes quasiment. Et j'ai commencé à voir des gens s'inquiéter, ou pas s'inquiéter, mais mentionner le fait que oh, tout le monde traite de l'IA, c'est une sorte de frénésie de l'IA, est-ce que c'est pas exagéré, ça y est, tout le monde tombe dans les... dans les pièges du marketing. Il est possible qu'on en fasse peut-être un petit peu trop, mais je crois vraiment que on est en train de se rendre compte, et là vous allez le voir avec ce que je vais mentionner, que l'IA est un moment, un changement de paradigme dans l'informatique et dans la tech, comme on en a eu il y a des années, et ça arrive une fois, on va dire, toutes les décennies, plus ou moins. On a, enfin, je sais pas, Internet, l'interface graphique, les smartphones, ce genre de choses. On n'est peut-être pas à la même ampleur, mais en tout cas, clairement, c'est un truc dont les géants de la tech se préoccupent. Et là, on ne parle pas de télé-3D et crypto-monnaie. Hein. On est sur un truc qui va vraiment avoir des conséquences, même si ce n'est pas aussi magique que on l'a... Pas qu'on l'a pensé, mais on a été tellement émerveillés qu'on s'est dit « Ah mon Dieu, ça peut peut-être tout faire ». Évidemment que ça ne veut pas tout faire. Ce n'était pas vraiment le but de dire « ça peut tout faire », mais l'évolution était telle qu'on s'est concentré, comme je le disais la semaine dernière, on s'est concentré sur les aspects éblouissants avant de mettre un petit peu de relativité dans nos commentaires. Il n'empêche, les aspects éblouissants sont là et... Les géants de la tech s'en inquiètent et s'en préoccupent. Et on a eu cette semaine une série d'annonces qui montrent à quel point ça a une influence sur la tech en général et ça va avoir une influence sur notre quotidien. Ce dont on parlait depuis le lancement de ChatGPT est en train de se concrétiser très, très vite. Puisque Google a annoncé l'arrivée de son propre ChatGPT-like qui s'appelle Bard, qui est basé sur Lambda, son modèle d'intelligence artificielle conversationnelle qui avait déjà été présenté à plusieurs reprises, qui devrait arriver au grand public dans les semaines à venir. À la suite de ça, ils ont annoncé un event, une conférence de présentation de la recherche et de l'IA pour le 8 février. Évidemment, Google est bien placé pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu les prototypes ou les versions preview de l'interface, mais ça met une grosse réponse d'IA avant les résultats de recherche. Si votre trafic est basé sur les recherches Google, et c'est le cas de tout le net, je m'inquiéterais un petit peu parce que la première réponse, c'est énorme, c'est le résultat de l'IA, et après, il y a le reste. Et du coup, là où Google est vraiment bien placé, c'est qu'ils ont les deux. Beaucoup de moteurs de recherche, enfin beaucoup de sociétés de la tech pourront utiliser l'IA, mais Google a aussi un moteur de recherche avec ses outils habituels. Donc, ils peuvent vraiment proposer les deux en parallèle, ce qui est une force, évidemment. Mais on peut en parler dans une seconde, mais à la suite de ça, ou plutôt dans le même temps, Microsoft a, comme on le savait, officialisé ses plans de mise à jour de Bing avec ChatGPT, donc avec le successeur de ChatGPT qui s'appelle GPT-4, enfin le moteur de ChatGPT version plus puissante encore, dans les semaines à venir aussi. Et ils ont annoncé, juste après la conférence de Google le 8, ils ont annoncé qu'ils feraient une conférence le 7. C'est aujourd'hui, hein, au moment où on enregistre. Donc, ils vont présenter leurs nouveautés sur ChatGPT pour Bing. Également, Baidu, le géant chinois, a annoncé qu'ils avaient un service comparable à ChatGPT qui s'appelle Wenxing Yiyan, je prononce sans doute pas bien, ou alors le Ernie Bot en anglais, qui devrait arriver dès le mois de mars. Et Apple fait une conférence interne annuelle tous les ans qui s'appelle le AI Summit. Donc, c'est un truc en interne pour leurs développeurs, pour leurs employés. Et ça arrive depuis longtemps, enfin, ils le font régulièrement. On peut imaginer que cette année, vu les développements dont on vient de parler, ça risque d'avoir une importance accrue et peut-être même des leaks ou des infos qui vont fuiter sur leur projet, puisque tout le monde se jette sur l'IA. On peut continuer à en parler, mais là, clairement, on est arrivé au boiling point, au point d'ébullition de l'IA dans la tech.
Et pourquoi, en fait ? C'est parce qu'en fait, ces technologies-là sont enfin disponibles pour le grand public, ces technologies aussi avancées. Et je ne parle pas des assistants Google et autres, Siri, Cortana et compagnie, sont enfin arrivées dans les mains du grand public. Et c'est là qu'en fait, on voit, au même niveau qu'Internet a transformé notre façon de travailler, etc., d'apprendre, et tout ça, en fait, on voit qu'on est un outil qui est un vrai tournant, alors peut-être pas de civilisation, mais en tout cas, qui est un vrai tournant dans la société et dans la façon dont on consomme le savoir, en fait, tout simplement. Dont on est assisté, dont on est... Enfin, c'est assez incroyable. Et alors, moi qui suis dans l'éducation, je peux te dire que c'est un truc qu'on prend en plein visage. Et je vais te dire un truc, c'est une opportunité incroyable. C'est-à-dire que dans la seconde où ChatGPT était disponible pour le grand public, j'ai tout de suite monté un atelier avec les API pour que nos étudiants apprennent à s'en servir. En fait, mon objectif, ce n'est pas de l'enfermer, mais c'est plutôt de dire, demain, quand vous serez sur le marché du travail et que toutes les entreprises utiliseront cet outil-là, si vous ne savez pas le faire, vous êtes moins bon qu'un collaborateur qui sera capable de le faire. Mmh. Vous serez moins bon que quelqu'un qui est capable de gérer 10 projets en même temps grâce à ces outils-là, quand vous en gérerez qu'un seul, en fait. Ouais. Ou qui vont beaucoup plus vite que vous parce qu'ils maîtrisent l'outil. Donc, nous, on a fait le choix dans mon école de l'intégrer au programme. C'est que littéralement, en première année, maintenant, là, dès cette année, ils ont un projet autour de ChatGPT, de OpenAI, etc. On ne veut surtout pas rater le wagon de l'intelligence artificielle. Et quand je vois des écoles qui freinent des cas de fer sur
qui essayent d'interdire
ces problématiques-là, qui essayent de l'interdire et tout ça, ben en fait, questionnez-vous sur le niveau d'exigence de vos examens, en fait. C'est-à-dire que si une IA est capable d'y répondre, c'est que ben, peut-être qu'il manque quelque chose dans votre certification. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est pas une blague. Donc, il y a vraiment pour moi, c'est pas un problème. On a enfin un outil qui a la possibilité de changer, en tout cas, peut-être pas la face du monde, mais pas très très loin quand même. En tout cas, la face de beaucoup de business, de l'informatique moderne, de plein de choses. On a enfin une révolution comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Donc, il ne faut surtout pas essayer de l'enfermer. Enfin, interdire les calculatrices au collège, comme nous à l'époque. Interdire les smartphones, interdire Internet, interdire Google, interdire Wikipédia. C'est aller contre le sens de l'histoire. Donc, interdire ces outils, c'est vraiment aller contre le sens de l'histoire, en fait.
Mais c'est une question, oui, qu'on pose sous cette forme et des formes comparables depuis très longtemps. Mais du coup, si je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, tu disais tout à l'heure, si votre examen, une IA est capable d'y répondre, posez-vous des questions sur votre certification. Est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas au niveau où une IA est tellement convaincante qu'elle est aussi convaincante qu'un étudiant. Et du coup, le problème, ce n'est pas la complexité ou la spécificité de l'examen. Le problème, c'est que de toute façon, s'il y a, et peut-être qu'on est un petit peu dans l'hypothétique là, mais s'il y a réussi vraiment à répondre aussi bien qu'un étudiant le ferait, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ce n'est pas que...
Mais en fait, c'est la forme de l'examen. C'est-à-dire que si on se contente uniquement de l'écrit, par exemple... S'il n'y a pas de soutenance, d'oral, etc., où on peut vite voir si le travail produit est celui de l'étudiant ou celui d'un logiciel, en fait, bêtement. Hein.
Ouais.
Et bien, en fait, posez-vous des questions, en fait, sur la forme de vos examens, tout simplement.
Oui, tu veux dire, ce n'est pas forcément le fond, mais des moyens pour pouvoir s'assurer que c'est l'étudiant qui a fait le truc,
voilà,
mais en continuant
à utiliser
la force de
l'étudiant. Ouais, mais aujourd'hui, tu passes un examen, par exemple, je sais pas moi, sur l'acceptation au changement en entreprise, d'une nouvelle solution technique. Tu vois, typiquement, on est pile dans le sujet, mais tu passes un examen de ce type-là. Ce qu'on va te demander, c'est tout simplement, il existe différents types de changements, différents leviers de motivation, etc. Faire toi-même la recherche sur Wikipédia et y passer des nuits pour ensuite juste le résumé avec tes mots dans ta copie, est-ce que ça a plus de valeur ou moins de valeur que poser la question avec les bons prompts qui te mettent dans le bon contexte et où finalement l'outil va te sortir les réponses attendues ? Enfin, tu vois, en fait, quel est le degré de validité d'une information que de toute façon tu as recrachée de Wikipédia en allant le lire versus tu as posé la question à une IA qui t'a ressorti ce que disait Wikipédia finalement.
Oui. Et puis d'une certaine manière, on peut apprendre justement à aller ensuite un minimum vérifier l'information.
Exactement.
Et puis utiliser l'outil.
Exactement.
Ce qui est vraiment intéressant dans ces questions, c'est que c'est des questions qu'on va se poser de manière différente à tous les niveaux de la société sur l'utilisation de ces outils. Toi, tu les poses pour l'école et vous êtes au fait des sujets technologiques, donc vous le faites assez tôt et bien. Mais on va aussi se les poser dans plein de domaines et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Alors, on parle beaucoup de ChatGPT, évidemment, de ChatGPT. Tu disais, si vous pouvez gérer 10 dossiers en même temps, 10 projets en même temps au lieu d'un, je pense à Jérôme qui se plaignait d'avoir trop de choses à gérer. C'est plus 10 que tu vas avoir à gérer, Jérôme, avec les IA. C'est 100 100
Mais c'est déjà, nous,
et on ne dort pas.
C'est déjà le cas. Hein. Nous, on a intégré ChatGPT dans nos process de création.
Ouais.
On dit ChatGPT pour éviter toutes les blagues à base de paix quand
oui,
on parle de ça.
On a déjà l'habitude. Ouais,
oui, ChatGPT, c'est du vent. On l'a fait dès le premier jour. Nous on intègre. Nous, on l'intègre. Ben, Guillaume est à fond dessus et était même en avance dessus. En fait, moi, je voudrais, parce que je suis d'accord avec tout ce que dit Cédric et on peut en parler des heures parce que on ne sait pas bien où tout ça va nous mener. Mais moi, le truc qui me turlupine en ce moment, c'est la vitesse de cette révolution. Comme tu disais, là, à 3 jours d'intervalle, tous les grands GAFAM sont en train d'annoncer leur truc. En fait, comme Cédric le sait et comme vous le savez, quelque part, tout ça était dans les laboratoires depuis pas mal de temps. Ça fait longtemps que GPT, OpenAI et tout ça existent et qu'on travaille dessus. Moi, ma source d'inquiétude, elle n'est pas dans « on va tous perdre nos boulots et on va devenir cons ». Elle est plutôt dans « on a l'impression que la boîte de Pandore a été ouverte ». Que tout le monde ait pris un petit peu de cours.
Ouais, et que tout le monde
s'apprécie. Et que du coup, les barrières de sécurité, parce qu'on en a eu, hein, et je parle pas que de Elon Musk, parce que lui, bon, bref. Mais il y en a d'autres qui nous disent, attention, là, on est en train de toucher à quelque chose qui est une révolution énorme, énorme. Et comme toute révolution, comme toute innovation, couteau à double tranchant, dont le tranchant n'a jamais été aussi tranchant. Et qu'on a un peu l'impression que là, Google a été pris de vitesse par la sortie, en fait, pour le grand public de ce qui est déjà dans les laboratoires depuis longtemps. Et ils savent de quoi c'est capable. Et ils l'ont déjà, Google. Le fait même qu'en même pas 2 semaines, ils proposent une alternative à ChatGPT montre bien qu'ils sont prêts. Mais pourquoi ils ne le sortaient pas ? C'est parce qu'ils ont des réticences, ils ont des anxiétés. En ce moment... Enfin, très peu de débats autour des problèmes de copyright que c'est en train de poser, des problèmes de effectivement, on le voit bien que ChatGPT parfois il préfère répondre que de dire la vérité, la fiabilité des réponses. On sait aussi, parce qu'il y a eu des précédentes expériences d'IA, que quand tu commences à laisser des IA dans la nature, parfois elles prennent des biais qu'on n'a pas forcément envie qu'elles prennent. Bref, est-ce qu'on n'a pas subi un grand coup d'accélérateur qui n'était pas vraiment prévu et que tout le monde est en train de réagir en catastrophe ? C'est la question que je pose.
Alors, moi, je pense que... Il y a une fuite en avant et la problématique, c'est que justement, ça soit diffusé de façon trop rapide, sans prise de recul sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ta crainte aussi, Jérôme, et ça, je l'entends parfaitement. Et je pense que c'est une crainte partagée aussi par tous, et y compris par moi, même si je suis hyper enthousiaste sur le fait qu'on ait enfin un outil qui soit incroyable. Donc, vraiment, je vois ce que tu veux dire, c'est cette accélération qui fait peur. Et je te rejoins sur ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas entrevu seulement le début des conséquences que ça va avoir sur même l'employabilité, hein, bêtement.
Ah bah, c'est
hein,
ça.
Un développeur qui est capable de faire le travail de deux juste en utilisant ce genre d'outils, est-ce que vraiment on va avoir besoin de développeurs ? Voilà.
Bah, justement, à ce propos, l'une des raisons pour lesquelles il y a un tel emballement, et je pense que si vous écoutez l'émission depuis un moment, vous l'avez compris ces derniers mois, on en parle tout le temps et on parle de l'importance et de la popularité de ces outils. Là, il se trouve qu'on parle de ChatGPT et du chat, mais c'est la même chose avec les autres IA génératives. Mais en l'occurrence, on a une étude qui montre que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs mensuels. Il a été lancé il y a quoi, 2 mois, hein, quelque chose comme ça, avec 13 millions d'utilisateurs uniques en janvier. C'est l'application consommateur qui a connu la plus grande popularité, la plus rapide de l'histoire. Je voyais d'autres données qui montraient que TikTok a atteint les 100 millions d'utilisateurs mensuels en 9 mois. Là, ça a pris 2 mois à ChatGPT. Et Instagram, alors c'était une autre époque, mais ça leur a pris 2 ans et demi. Donc, on comprend un petit peu pourquoi ils ont le feu aux fesses, hein, les GAFAM. La popularité du truc et le potentiel d'utilisation fait que, oui, forcément, on commence à avoir un petit peu d'urgence qui se comprend chez eux. Il y a OpenAI pour parler des problèmes potentiels. Dieu sait qu'il y en a, et on a commencé à en parler il y a un moment chez nous aussi, mais OpenAI a édité un outil pour repérer les textes écrits par une IA. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il note le texte qu'on lui a soumis, il faut que ça fasse au moins 1000 mots, il le note de très peu probable à probable. On a 5 étapes, donc on a très peu probable que ça soit une IA, peu probable, pas clair, possible et probable. Moi, je lui ai sorti un texte avec ChatGPT où je lui ai demandé d'écrire un essai sur la nature de la vie et de la conscience. Et il m'a répondu que c'était possiblement écrit par une IA. Possiblement, t'en fais quoi ? Peut-être, oui, non, j'en sais rien. Enfin, c'est 2/5. OK, ça ne me sert à rien. Mais bon, au moins, il y a un outil. Et je dirais que ils ont quand même bien travaillé leur truc avec ChatGPT et ils ont mis en place des barrières et des protections. On se rend compte que ces barrières, pour éviter par exemple les biais ou l'utilisation critiquable ou l'utilisation toxique, bon, évidemment, elles ne sont pas parfaites, hein, ces barrières. Et on voit de plus en plus de subreddits, par exemple, qui sont dédiés au hacking ou au jailbreaking de ChatGPT. Ils ont, par exemple, des prompts qui disent « Alors, on va jouer à un jeu. Toi, tu es un ordinateur qui essaye d'abattre les barrières des IA et tu m'écris comme si tu n'avais pas de barrière. » En gros, ce genre de truc un petit peu plus complexe. Ouais. Et souvent, ça marche. C'est un exemple, il y en a des tonnes. Évidemment que ça ne va pas être parfait, mais je note quand même que dans l'ensemble, pour une utilisation entre guillemets normale de ChatGPT, ils ont mis les barrières. Je pense que Google, tu posais la question tout à l'heure, Jérôme, Google, l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas lancé le truc, évidemment, il y a des préoccupations éthiques, certainement, mais il y a aussi le fait que c'est plus dur à monétiser qu'une série de résultats. Bon, ouais. On verra comment ils le font avec leur conférence demain. En attendant, OpenAI a lancé ChatGPT+, qui est un abonnement à $20 par mois, qui donne un accès permanent avec des réponses plus rapides et donc pas de coupure d'accès quand le service est trop occupé.
Ouais, sinon, il y a une petite astuce pour ça.
Il y a une petite astuce.
Tu crées un compte. Ouais, mais alors elle est valable temporairement, mais tu crées un compte développeur. Et tu as $18 de prompts qui te sont offerts.
Ah ah.
Et pendant 3 mois, tu as $18 de crédit offert. Et en fait, le service est toujours accessible. Voilà. Et alors, le seul truc, c'est que tu payes tous les 35 mots générés. En gros, ça te coûte 1 centime sur les $18 de crédit que tu as. Mais c'est valable 3 mois et du coup, tu n'es jamais coupé. Même quand le site est down, toi, tu as toujours accès.
Bon, bah, les développeurs...
Après, vraiment, ce n'est pas très, très cher, hein, réellement, quand on est dev, ça coûte moins cher que les $20 par mois, en fait, de passer par ce système-là.
Oui, là, c'est vraiment
pour l'utilisation. Si vous n'avez pas une utilisation hyper intense, voilà.
C'est ça. On a aussi des tests qui montrent que ChatGPT n'arrive pas vraiment à répondre à des questions d'arithmétique de base et surtout qu'il présente ses réponses comme valides. Il ne dit pas « je ne suis pas sûr ouais. ». Machin. D'une manière générale, moi, j'ai résumé en un tweet la manière dont on peut appréhender et je pense qu'il faut que les gens le comprennent, mais ça va venir. On est vraiment... Enfin, on ne se rend pas compte à quel point nous, on se dit « ah, ChatGPT a été lancé il y a 2 mois, c'est vieux, ça fait tellement longtemps, vous ne vous rendez pas compte à quel point on n'a pas pris les...
Like » old.
Voilà, c'est ça, c'est old. Mais le grand public, ça arrive, commence à peine à arriver. Et je pense qu'il est important que quand on en parle, on se souvienne de ce mantra que j'ai... Enfin, moi, c'est comme ça que je le formule. Je vais vous le dire en anglais. ChatGPT for creative shit is awesome. ChatGPT for information is unreliable. ChatGPT pour les trucs créatifs, c'est génial. ChatGPT pour l'information, c'est pas fiable. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut pas dire que c'est souvent faux même. C'est juste qu'il faut pas lui faire une confiance aveugle. Donc, pour les trucs ouais. créatifs, pour, génial.
Pour les trucs créatifs, non. Je suis désolé, mais pour les trucs créatifs, si tu le proverbe en anglais, for creating shit.
For enfin, creative shit.
Des petits trucs. Ah, creative shit.
Oui,
ah.
For creative shit.
Je croyais genre, pour shit, les trucs, pardon.
Mais non, pour les trucs d'accord. créatifs, c'est génial. Mais pour les
trucs, ouais, il y a des débats. En fait, moi, ce que je pense aujourd'hui, mais peut-être que je penserai autre chose demain, c'est que d'un point de vue créatif, créativité, ça c'est très bien pour tout ce qui ne demande pas une grande créativité, justement. Mmh. Pour faire une image de presse d'illustration d'un truc, c'est très bien. Pour faire des illustres, c'est très bien. Et le problème, et on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça serait un long débat, mais le problème des emplois, c'est que 90% des emplois créatifs sont des emplois qui se satisferaient de ce que fait l'intelligence artificielle. Mmh. Mais après, la grande créativité, la vraie créativité, ouais, là, je suis un peu plus circonspect.
Bon, c'est un tweet, hein. C'est surtout pour insister sur le fait que l'information que donne ChatGPT, l'information factuelle, n'est pas fiable. Surtout sur ce point, j'insiste dans ce tweet. Mais pour des trucs d'accord. genre, tu lui dis d'écrire un poème, bah c'est cool, il t'écrit un poème, que ce soit juste ou pas, que ce soit factuel ou pas, on s'en fout. T'as écrit un poème, c'est marrant, tu rigoles, tu vois. Mais évidemment, on se rend compte des limites de ChatGPT très vite quand on l'utilise beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'outil pour la recherche, ça ne va pas être très pratique. Mais justement, tu trouves que c'est trop limité, ChatGPT, Jérôme. Je vais juste, en conclusion de ce sujet, vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans le domaine de l'IA en dehors de la création de textes ou d'images. On a des sociétés vous savez, les trucs d'avions, les trucs qui font des avions, qui utilisent des avions pour nous transporter, des transporteurs aériens. Comment ça s'appelle ? Des compagnies aériennes.
Des compagnies aériennes.
Merci.
Comment appelle-t-on les sociétés qui nous transportent
en avion ? Et là, il te dit « pelote de laine » et j'ai raison, alors qu'écris ça.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Donc, ils investissent dans l'IA pour les aider à gérer l'opération des vols, la maintenance des avions, la gestion du carburant, etc., etc. Il y a un juge en Colombie qui a utilisé ChatGPT ouvertement pour rendre son jugement plus rapidement. Genre, il a utilisé ChatGPT, il a vu le jugement, il l'a revu et il a dit « ok, bon, bah, ça va, ça me convient ». Alors, les biais et tout ça, on n'en a pas parlé, mais il y a des problèmes de copyright, de biais. Mais il y a un juge qui a fait ça. Netflix et Wit Studio ont utilisé un générateur d'images pour créer les backgrounds d'un petit cours d'animation qui est vraiment sympathique, d'ailleurs. C'est une société japonaise, hein, Wit Studio. Ils font Attack on Titan et ce genre de choses, un studio d'animation. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des croquis de base qu'ils ont demandé à une IA de générer pour les décors de l'animation et qu'ils ont ensuite retravaillé derrière. Mais donc, c'est exactement ce dont parlait Cédric, c'est l'utilisation pour accélérer la productivité du truc, faire les choses. Et c'est super beau, ça marche vraiment bien. Évidemment, on a beaucoup critiqué la démarche dans la profession parce qu'il y a Il y a eu des licenciements dans le domaine, et donc ils disent ouais, ok, vous employez des IA, mais voilà, on retombe exactement dans la même problématique. On pourrait en parler longtemps, mais je veux passer aux deux derniers. Mais arrêtez de tout faire tomber, messieurs.
Pardon, c'est moi.
C'est pas grave, je voulais juste engueuler.
J'avais mon micro coupé, ça doit pas être moi.
Il y a l'utilisation d'IA pour, toujours chez Netflix, dans les séries, on va dire, pour changer le mouvement des lèvres en fonction de la langue, ou pour non plus biper les insultes, mais lui faire dire autre chose. Et donc, synchroniser le mouvement labial. Alors, on a vu, c'est Defend Intelligence, un compte Twitter qui a posté la vidéo. On a vu le résultat dans un tweet. Donc, la qualité de l'image n'est peut-être pas suffisante pour détecter les problèmes que ça pourrait poser, mais il n'y a pas de raison qu'avec suffisamment de puissance, ça ne convienne pas. Donc, ça peut donner des versions dans différentes langues qui ont une synchronisation labiale qui est voilà, c'est une sorte d'utilisation deepfake pour changer les lèvres.
Un truc quoi utile.
Et le dernier qui est assez phénomène internet-teux, c'est AI Seinfeld. Est-ce que vous avez vu AI Seinfeld? Enfin, ça s'appelle pas AI Seinfeld, mais ça s'appelle Nothing Forever. C'est une chaîne Twitch qui diffuse des épisodes de Seinfeld générés par IA. Mais quand je vous dis des épisodes de Seinfeld générés par IA, c'est une chaîne qui s'appelle Watch Me Forever. Ah, bon, bah, ils ont été... je voulais y aller, ils ont été bannis de Twitch, visiblement. Donc, bon, on verra sans doute pour utilisation du matériel de Seinfeld qui pose la question de copyright. En fait, c'est une IA qui a été entraînée sur Seinfeld, et qui génère des épisodes, non pas en images, parce que la génération de vidéos, c'est encore un peu compliqué, mais en 3D super pixelisé, parce que c'est généré par IA, et elle génère les scripts, les voix, les déplacements des personnages très simples dans un environnement 3D très simple, et du coup, ça crée des épisodes infinis. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui regardaient ça. C'est très souvent un peu ridicule, et évidemment, la qualité n'est pas folle. Mais le fait qu'il y ait une série, entre guillemets, enfin une production vidéo entièrement générée par IA, on n'a pas tous les détails encore. Donc, c'est un groupe qui est un petit peu nébuleux. Ça se trouve, c'était un hoax, c'est possible, mais ça n'a pas l'air. Et du coup, ça génère entièrement une série à partir d'IA. J'ai trouvé ça assez fascinant au moment où on pouvait encore aller le regarder. Vous avez vu ou pas du tout, non?
Non, mais ça va dans le sens de... Bon, alors, Seinfeld, c'était quand même une bonne série, mais en même temps, on pourrait se poser la question, est-ce que beaucoup de choses qu'on regarde ne sont pas du remplissage, qui ne demandent pas... Enfin, qu'une IA pourrait faire, en fait. Et c'est à la fois le problème et la solution. C'est que beaucoup, beaucoup de boulots, en fait, vont pouvoir être remplacés, et notamment la production de séries, on va dire, moyennes, avec des acteurs 3D qui seront convaincants. Il y a des chaînes, on est à une année de chaînes YouTube qui seront entièrement générées, et même, on n'est même pas à 3-4 mois, je pense, il y en a déjà, des TikTok qui génèrent leur contenu automatiquement. Les premières expériences effectivement de génération vidéo sont déjà au point, avec présentateurs animés relativement convaincants, et il reste plus que les podcasts audio. ça c'est facile, faisable ça, la semaine prochaine, on est déjà. Moi, je voulais ajouter un autre truc qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment, juste parce que je l'ai vu hier sur TikTok, c'est les médecins qui commencent à utiliser aussi l'IA pour affiner les diagnostics.
On avait un sujet là-dessus il y a 2 ou 3 semaines, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le taux de diagnostic juste d'une IA n'était pas à 100%, évidemment, mais il était comparable au taux de diagnostic des humains, qui n'est pas non plus à 100%. Alors, c'était pondéré par le fait qu'il faut évidemment de l'analyse, de la compréhension, de la mesure. Juste le diagnostic, c'est pas tout. Tu peux pas prendre un diagnostic et puis dire tu prends ça, voilà, t'iras mieux. Mais oui, outil d'aide, ça touche à tout, quoi, y compris la médecine. Ils ont été bannis pour des commentaires transphobes qui ont été faits par certains des personnages. Donc c'est marrant, là encore, on voit une sorte de signal d'alarme sur ce que va te sortir l'IA. On l'a évoqué, mais pas dit clairement, l'un des problèmes des IA, c'est qu'ils sont entraînés, elles sont entraînées sur du texte existant sur Internet, et donc, sur Internet, c'est-à-dire dans la société, et donc reproduisent les biais existants dans la société. Et ça, c'est un problème qu'il faut évidemment...
Et du coup, tombe sous le cadre des conditions générales d'utilisation des plateformes. Donc, la loi humaine prévaut encore sur les IA.
Eh bien, c'est la réponse. On verra. Et ça, tu sais, on va avancer parce qu'on peut en parler jusqu'à la fin des temps. Mais la prochaine grande étape, et je vais peut-être fermer le cercle, ça va être justement la question de la législation sur les IA qui va couvrir énormément de domaines différents. Et oui, on va être en retard sur l'application. Mais à un moment, par rapport à ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure, il faut bien préparer les choses. J'espère qu'on l'a bien préparé autant que possible. Mais à un moment, on ne peut pas préparer au point que ça sorte parfait pour l'utilisation grand public. Tu ne peux pas, dans un labo, tester suffisamment pour qu'une fois que ça sort du labo et que ça soit utilisé en conditions réelles, tout fonctionne parfaitement. Donc, il faut qu'à un moment, on se confronte au réel pour pouvoir, et j'espère que sur ces points, on sera réactif, suffisamment réactif, pour pouvoir modifier les comportements et le fonctionnement pour que les problèmes soient corrigés. Et puis après, on va avoir aussi un aspect législatif. Pour les réseaux sociaux et Internet, ça a pris genre 15 ans et c'est encore en cours. Là, on va avoir une période d'ouest sauvage pour l'IA, je pense.
Ouais, moi, la seule réserve que j'ai par rapport à ça et la petite crainte que j'ai, si on reste dans les analogies, là, je pense qu'OpenAI a vraiment sorti le truc alors qu'on n'était pas encore prêt. Pour prendre tout le monde de vitesse, hein, pour des raisons économiques aussi, et que c'est un peu comme si juste après l'invention de l'énergie atomique, on était déjà en train de dire, oh, bah, on va mettre une petite pile atomique dans chaque foyer. Tu vas voir quand même les conséquences macroéconomiques sur l'emploi. Ah, on n'est pas prêt parce que là, on va détruire beaucoup plus vite des emplois qu'on va en créer, mais à une vitesse qui va être folle. Donc, ouais, là,
oui, mais tu peux pas. Coup, tu seras jamais prêt avant que ça n'arrive. Tu seras jamais prêt. Tu peux pas. La manière dont l'informatique a révolutionné l'économie et la société.
Non, mais alors, je te fais une autre analogie, peut-être plus facile à comprendre. Le travail qu'on fait aujourd'hui.
C'est de la faute, hein.
Non, c'est pas ça. Mais le travail qu'on fait sur l'ADN, sur les génomes, on sait que c'est des recherches qui touchent, on va dire, des trucs qui font, enfin, très très profonds quand même, qui peuvent être potentiellement extrêmement dangereux. On met quand même des barrières de sécurité. Il y en a qui vont un peu plus trop vite là-dedans. Ils sont rapidement punis, entre guillemets. Là, on arrive dans des domaines de la recherche et de la science et de la technologie dont les conséquences immédiates... Et c'est pour ça que j'ai pris l'analogie du nucléaire qui est à la fois bien et très destructeur, quoi.
Voilà. Quervinoa nous dit ils ont vendu des kits de chimistes pour enfants avec des matériaux radioactifs aux US dans les années 50. Effectivement. Ouais. Écoute, possible, mais moi je ne nie pas que c'est une crainte. Je suis aussi convaincu que on se rend bien compte que Lambda est dans les laboratoires de Google et ailleurs depuis maintenant quoi 2 ans. Ça commence à prendre forme. Moi je pense que jusqu'à ce que ça sorte du labo, on ne va pas avoir l'impulsion de s'y préparer. On peut s'y préparer. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, non, maintenant, on a compris que ça va arriver, il faut attendre encore 1 an ou 2 ans ou 5 ans. C'est ça que tu préconiserais, en fait. Maintenant qu'on a vu le ChatGPT, on comprend un peu mieux. Donc, aucun outil ne peut être publié d'IA avant qu'on se prépare vraiment.
C'est pas... Non, mais il faut des instances... comme il y a effectivement sur l'ADN, la recherche biologique et ce genre de choses, des instances, on va dire, de modération et de pondération. Parce que là, tout sort du privé. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le domaine des recherches publiques et contrôlées, etc. On est dans le domaine du capitalisme et de la vie des...
Ok, qu'est-ce que tu préconises? que le haut comité à la gestion de l'IA européenne.
Il va falloir des comités éthiques. Des comités aussi, justement, sur les législations du travail et tout ça. Je ne veux pas faire mon vieux con et dire tout
ça. Non, mais ce n'est pas une question de vieux con.
Parce que je sais très bien que c'est inévitable. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le rythme que ça prend, ouais. Et il y a zéro contrôle. On est dans le libéralisme le plus... Et tu le sais, je suis libéraliste de base, donc je ne suis pas un anticapitaliste et tout ça. Mais là, on est purement dans le domaine de l'argent. Comment on va faire de l'argent le plus vite possible avec ce truc-là, et ça, c'est très dangereux parce qu'on touche à quelque chose qui, pour moi, est aussi touchy que de bosser sur l'ADN, les premières briques ouais. de la vie, tu vois.
Je trouve que parfois, tu as des comparaisons qui sonnent bien, donc tu t'en convaincs, mais elles sont pas aussi... comment dire ? Aussi solide que tu ne le penses. Enfin, l'ADN, clairement, c'est un problème important, enfin, une des questions importantes. ChatGPT, on ne sait pas encore, et on aurait pu dire la même chose à l'arrivée d'Internet, on aurait pu dire, et c'est arrivé très très vite Internet, et ça a effectivement détruit slash transformé énormément de choses. Le gros problème, je ne suis pas d'accord avec toi Jérôme, mais le gros problème à mon sens, c'est que tant qu'on ne l'utilise pas dans les conditions réelles, on ne saura pas ce que ça peut faire ou pas, et légiférer sur ces choses-là, on n'est plus dans le domaine de la recherche. Légiférer sur ces choses-là, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. Et je suis pas... Je pense que l'une des leçons à retenir des années 2010, c'était, en tout cas pour Facebook, c'est « bon, move fast and break things, calmons-nous un peu parce que parfois, ça break des things, tu vois. » Mais il n'empêche que je ne sais pas si on a une solution sérieuse à ce genre de problématique. Je ne vois pas comment on pourrait légiférer sur les conséquences du développement de ce type d'IA qui sont plus limitées qu'on ne l'a peut-être pensé ou qui... On ne sait pas. Est-ce qu'on dit « Ah, ça va remplacer tel et tel et tel truc » Est-ce que... Mais peut-être pas. On ne sait pas. Et c'est très compliqué de décider de ce qui est éthique ou pas avant d'en avoir vu les applications. Et du coup, enfin, dans ce domaine, hein, je veux dire, on n'est pas en train de parler de d'armes nucléaires ou de changement de... Tu vois, on n'est pas en train de se dire... on sait qu'on peut sélectionner les gènes d'un bébé qui va... D'un bébé, et donc, on sait que éthiquement, on ne va pas l'autoriser. Ce n'est pas aussi carré et aussi clair que ça. Ce n'est pas aussi scientifique que ça. On dit, on va introduire un outil... qui risque de perturber, de disrupter la création et, d'une certaine manière, le marché de l'emploi. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel biais, on ne sait pas...
Non, mais j'entends ce que tu dis, mais on n'a pas la même analyse de la dangerosité. Moi, je le dis, et peut-être qu'on va se moquer de moi, mais je pense qu'aujourd'hui, avec un ou deux ans de recul, l'intelligence artificielle a de quoi, chez les cols blancs, détruire 80% des boulots.
Ouais, alors attends.
et si... Ouais. Non, mais vraiment, c'est ce que je pense.
Ok. Alors, je pense pas qu'on va s'attacher au chiffre de 80%, et je pense pas que qui que ce soit se moquera de toi quand tu dis « Ah, l'IA peut détruire des boulots ». Au contraire, enfin, tu prêches une paroisse
non,
de convaincu,
mais,
je pense.
Mais ça...
Et je pense que beaucoup s'inquiètent de ça dans notre audience. Mais... Bon, enfin bref, on va pas continuer sur
ça. Non, je disais juste que c'était une question de crantage. Quand tu dis il n'y a pas la même dangerosité que les recherches génétiques sur les enfants, si tu penses que l'intelligence artificielle ne peut détruire que 10% du boulot, on peut dire oui, c'est un phénomène comme l'arrivée de l'informatique et d'Internet. Mais si tu penses que ça peut en détruire 80, là, tu te dis qu'il y a une dangerosité qui est plus grande.
Monsieur Béjart,
en fait.
Monsieur Béjart, voilà. Vous voulez donc que 80% des emplois soient détruits ?
Non, mais je suis sérieusement inquiet je pense qu'il y aura une explosion nucléaire de l'emploi et de la perte d'emploi.
Ouais, voilà. Alors je n'irai pas jusque là parce que 80%.
Non, mais c'est impossible. Pas, ça veut rien dire. Je suis désolé, mais.
Mais alors, c'est juste mon analyse que 80% des jobs des cols blancs sont des jobs de remplissage. qui ne demande pas une intelligence particulière. Voilà. Bon. Non, mais pas que le happiness manager, moi qui ai bossé dans le marketing. Moi qui ai bossé dans le marketing, 70% du marketing, c'est du remplissage de slides avec du bullshit. et énormément de notre économie repose sur du bullshit, quoi.
Je suis d'accord.
Ils vont pouvoir faire encore plus de PowerPoint avec du bullshit.
Ouais, mais un mec qui va faire le boulot de 8 mecs.
Mais c'est pas ça, Jérôme. C'est que les PowerPoint avec du bullshit, ils auront des belles images au lieu d'avoir des trucs word art. C'est ça qui va vraiment changer, tu vois. Et que au lieu de se dire « Ah bah merde, je peux pas me payer un artiste sur Fiverr pour faire toutes mes images d'illustration de mon PowerPoint pour mon manager pour que ça fasse bien, et donc je vais utiliser des word art pourris », eh ben, je vais utiliser de l'IA et donc ça sera un peu plus beau. Et
non, écoutez, Jérôme, tout le monde travaille 30 heures par semaine. On diminue le temps de travail grâce à l'IA. Et ça,
voilà une idée. Là, on parle.
Ah, on va tellement te le diminuer ton temps de travail que t'en auras plus, oui. Les lumières. Ah bah non, c'est sûr. Mais j'espère que j'ai aussi tort sur mon analyse que j'ai eu tort sur les smartphones. C'était quoi que j'avais
modulable.
Dit à l'époque. Modulable. Voilà. J'espère que j'ai tort, les gars. Mais vraiment, j'espère que j'ai tort.
Je pense pas que t'as tort. Je pense que ton chiffre de 80% sorti du chapeau est un peu exagéré. Mais je pense pas que t'as tort. C'est évident que ça va avoir des conséquences hyper importantes sur la manière dont on travaille, si l'influence qu'on suspecte est même à moitié aussi importante que... Enfin, si l'influence est à moitié aussi importante qu'on la suspecte. Mais de la même manière, regarde le monde d'il y a 20 ans et le monde d'aujourd'hui, Internet a décimé des secteurs, transformé des secteurs.
Je sais.
Et je crois, moi...
Mais ce n'est pas les mêmes proportions.
Je ne sais pas au niveau des proportions, mais moi, je pense, j'imagine, et peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ça sera le même genre d'influence transformato-destructive que juste destructive. Et
mais c'est là... moi, je pense
pas... Et on va laisser Cédric conclure après, parce que le pauvre, il ne peut pas en placer une. Vas-y, finis.
Non, mais c'est important que j'affine quand même. Le truc, c'est que je pense qu'Internet a détruit peut-être 10% des jobs. Allez, 15% des jobs. Non, mais je sais, je sors tous les chiffres de mon chapeau.
mais
Patrick aussi sort ses chiffres du chapeau.
Mais moi, je sors
c'est
pas
des intuitions
de
qu'on a.
Moi, l'intuition
que j'ai, c'est que ça va être un cataclysme au niveau de l'emploi, alors que le web, l'arrivée du web et l'arrivée de toute technologie a engendré sur une balance d'à peu près une dizaine d'années de la création d'emplois et de la destruction d'emplois. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la destruction va être massive, beaucoup plus vite que la reconstruction d'emplois. Et pour l'instant, ChatGPT nous a pas donné un système économique qui nous donnerait un droit à la paresse infinie dans notre vie, tout en subsistant dans l'économie. Voilà.
Tu penses, par exemple, à l'automatisation et la robotisation des usines de l'agriculture, qui a, là, pour le coup, effectivement, certainement détruit... je ne sais pas, 70-80% des emplois qui faisaient les 3-8 dans les usines.
Oui, mais sur des périodes de temps. Là encore, c'est les périodes de temps qui permettent. C'est ce que je dis, c'est que ça va tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de réagir.
Cédric,
c'est
ça,
en fait, le problème.
Ouais, en fait, je comprends ta crainte, mais pour moi, quand je vois déjà l'adoption d'Internet par... les PME de manière globale, et parce que c'est mon domaine et je forme des gens qui justement vont les aider, je me dis que l'adoption de l'intelligence artificielle par la plupart des métiers dont tu cites, Jérôme, va pas être aussi rapide que ce que l'on imagine nous en tant que technophiles parce qu'on s'est jeté dessus. Je pense qu'il faut relativiser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des boîtes qui n'ont pas de site internet. Enfin, on en est là en fait. Donc je suis pas certain qu'on en aille aussi vite que tu le penses vers la destruction massive d'emplois. Il va y avoir des changements, ça c'est sûr. C'est comme toute technologie qui débarque. Quand le smartphone a débarqué, beaucoup ont pensé que c'était la fin des secrétaires, que c'était la fin des assistants, etc. Parce que finalement, on avait tout dans sa poche et tout était mieux géré par soi-même dans sa poche sans avoir besoin de faire appel à une personne. Bon, pourquoi pas, in fine, quand on voit le nombre d'emplois créés dans l'écosystème via des développeurs qui ont développé des apps, etc. Pareil pour Internet, quand Internet est arrivé, on s'est dit, mais c'est la mort du courrier, etc. Regarde aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la poste? Elle n'a pas disparu en 2 ans. Je pense que il va y avoir effectivement peut-être 80% de destruction d'emplois chez l'école blanc, mais je pense pas que la vitesse à laquelle ça va s'exécuter sera aussi rapide que ce que l'on peut croire, en fait. Donc,
on se retrouve dans un an. On est le 7 février 2023. 7 février 2024, Jérôme, on se retrouve et on verra si 80% des emplois ont été
détruits. Mais la Poste n'a pas disparu, je réponds à Wendigo dans le chat. La Poste n'a pas disparu le jour où Internet est sorti de terre. Et que
mais je n'ai pas dit que 100% des boulots allaient disparaître. Je dis juste que les patrons, là, sont en train de s'apercevoir qu'un mec, pourra faire le boulot de 8 mecs. Et ça, c'est pour ça que ça va aller très très vite. C'est qu'ils vont pouvoir faire tourner des boîtes avec beaucoup moins de monde, quoi.
Les patrons, on aura leur peau. Oui, je ne suis pas tout à fait sur cette ligne. Je suis préoccupé également, j'espère que c'est clair, mais pas de la manière dont Jérôme est préoccupé. Je me disais, c'est sympa quand j'ai Jérôme et Cédric dans l'émission, parce que au moins, généralement, c'est les gens qui sont plutôt de droite qui sont fâchés contre moi. Et quand Cédric et Jérôme sont dans l'émission, c'est plutôt les gens de gauche qui sont fâchés contre moi. Mais non, là, tu vires rouge, Jérôme, donc...
C'est le rôle que j'ai adopté un peu d'entertainment dans l'émission. Mais justement, le libéral que je suis est inquiet. C'est ça qui est encore plus inquiétant.
Quand on vient chercher ton travail à toi, forcément, là, tout de suite...
Ouais,
ça
peur,
s'inquiète
hein.
plus, hein.
Mais non, bon. Mais ton job a été créé grâce à Internet, Jérôme.
Oui, mais il va disparaître aussi.
Moi, je dis, on retournera dans les champs. Nous, on est dans la forêt ici.
La réac encore. Le boulot va pas disparaître.
J'ai une tronçonneuse et des arbres à couper pour faire du bois. On trouvera des moyens de s'occuper. Faire pousser du blé et de l'agriculture renouvelable. Comme on dit, de l'agriculture verte. Merde, il y a un terme en anglais que je ne retrouve pas.
Ouais, de toute façon, on va tous se faire bouffer par les champignons.
C'est un autre problème encore à gérer. Bon, ouais. Bref, on n'a pas fini de parler d'IA, vous l'avez compris. Merci pour ce débat animé. On va passer rapidement au petit sujet supplémentaire du reste de l'actu. Non sans vous rappeler que cette émission est entièrement financée en majorité financée par Patreon, patreon.com/rdvtech, qui ne fonctionne pas par IA. Écoute, le jour où les IA pourront payer des contributions Patreon, peut-être qu'on sera un petit peu moins inquiété, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez écouté quelques-uns des 500 épisodes que nous avons bientôt produits, il y en a même plus parce qu'il y en avait qui n'étaient pas numérotés, eh bien, vous pourriez peut-être considérer l'idée de soutenir cette émission sur patreon.com/rdvtech. C'est très simple, vous choisissez le niveau de soutien qui commence à 1 euro. Vous mettez vos informations et à la fin du mois, vous êtes débité. Si vous êtes soutien d'autres créateurs, vous êtes débité sur une petite facture sur Patreon. C'est super, super pratique et bien foutu. Moi, je me fais un petit budget. Alors, le mien, il est élevé parce que j'ai beaucoup de gens que je veux soutenir. Mais vous faites un petit budget, vous choisissez les gens que vous soutenez, peut-être, y compris le rendez-vous tech. Et ça se fait en 2 minutes. Donc, si vous y pensez, si vous dites « Ah ouais, je le ferai plus tard, à un moment, machin », peut-être que la semaine prochaine, au moment de l'épisode 500, ça sera moment rêvé pour ça. Ou alors, quand vous arrivez chez vous, que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait « cling », ou que vous vous mettez à la machine à café et que ça fait « glou-glou », et bien à ce moment, oh, Patrick ! Et je vais sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Et d'ailleurs, en after-show, pour les patriotes uniquement, on va parler un petit peu de MrBeast, qui est le plus gros YouTuber du moment. Il a 130 millions d'abonnés, qui a fait une vidéo un petit peu stunt sur un sujet controversé. Il a payé l'opération pour rendre la vue à 1000 personnes. Il en a fait une vidéo. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ça a provoqué des réactions vives. On en parlera dans l'after-show.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on passe à la partie du reste de l'actu. Apple pourrait... Alors, je voulais parler des résultats financiers d'Apple avec un graphique qui est vraiment super sympa. Mais avant ça, juste pour signaler qu'il se pourrait que Apple copie complètement Samsung avec un troisième téléphone modèle Pro. Il y aurait le Pro, le Pro Max et le Pro Ultra, qui serait encore plus cher, bien sûr, qui continue à augmenter le prix moyen de dépenser par les clients. Moi, je me dis, vu les abrutis qui ont acheté... Pardon. Vu les gens qui n'en ont pas besoin, qui ont acheté l'Apple Watch Ultra, ils auraient tort de se priver en même temps. Mais le graphique des rentrées financières d'Apple sur le premier trimestre 2023, hyper intéressant. C'est un compte que j'ai découvert sur le Discord. Je mettrai le lien dans la newsletter, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com. C'est App Economy Insights, Economy App, qui fait des graphiques vraiment super bien foutus pour représenter les rentrées, les bénéfices et tout ça. Et dans le cas d'Apple, on se rend compte que l'iPhone représente 65 milliards, on parle d'un trimestre, hein, 65 milliards sur les 117. Bon, ça, on pouvait s'en douter. Le Mac représente seulement 7 milliards, c'est la plus petite catégorie, 7,7 milliards. Les wearables, donc Apple Watch, AirPods, Home, les accessoires, tout ça, c'est 13 milliards. C'est tous les accessoires, y compris les AirPods. Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est les services qui sont devenus, en quoi, 3 ans, au moment où ils ont vraiment mis le coup d'accélérateur sur cette catégorie, ils représentent 20 milliards de dollars sur le trimestre, soit la deuxième catégorie, un tiers des revenus de l'iPhone. Les services, c'est, ils existaient déjà avant, mais notamment avec Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, etc. 20 milliards sur le trimestre, surtout la deuxième catégorie. Vraiment impressionnant. Et le profit net, c'est 30 milliards. Donc, ça va encore... ils sont un petit peu au-dessous de leur marge de 30%. C'est 26% de marge. Ils sont encore assez en forme. Du côté d'Apple, ça va. Donc, ça, c'est Apple. Et puis, il y a aussi Meta. Et ce n'est pas pour parler des résultats que je voulais évoquer Meta, mais depuis les dernières semaines, les quelques derniers mois, le cours de l'action est remonté de manière phénoménale, de 110% depuis le plus bas cours en novembre. Ils avaient chuté de manière catastrophique, presque 70% en 2022. Et bien là, ils sont vraiment remontés. Alors, je laisserai à quelqu'un d'autre le soin d'expliquer pourquoi, comment, à la limite, c'est même pas tellement important. C'est la confiance que font les marchés en la capacité de Meta à gagner en valeur. Mais on s'en était un petit peu moqué, soyons honnêtes, de Meta qui avait perdu tellement de valeur avec les frasques de Zuckerberg, notamment dans la réalité virtuelle. Et ben, ils sont remontés de beaucoup. Alors, pas encore au niveau où ils étaient, mais c'est la plus grosse performance du S&P 500, qui est un des index de la bourse américaine. Ils ont ajouté 250 milliards de valeur à leur capitalisation boursière depuis novembre. Comme quoi, Meta, il ne faut peut-être pas les enterrer trop vite. Si vous avez des commentaires à faire sur ces chiffres, n'hésitez pas.
Et si... oh, Meta, je suis étonné, moi. En fait,
ouais,
je
pense vraiment j'avoue, moi aussi.
J'ai plus de la fin que du début. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si pire.
Bah, les gens continuent à utiliser Facebook et ils ont aussi Instagram et WhatsApp, etc. Quoi.
Ouais, ils ont encore de la ressource.
Pardon, Jérôme, j'ai interrompu Cédric en plein milieu de sa phrase. J'ai promis aux auditeurs de moins le faire et j'essaye. Donc du coup, je vais t'interrompre pour redonner la parole à Cédric.
Non, c'est moi, je suis assez étonné parce que on se rend compte que finalement, la promesse de Meta va être difficilement tenable. La démo technique que nous avait fait Mark Zuckerberg avec le métaverse, etc. Et on était aussi enthousiaste que le soufflet est retombé vite, je pense. La technologie qui nous projetait dans 5-10 ans, finalement, on se rend compte que dans 5-10 ans, on n'y sera sans doute pas. Et ça a déçu beaucoup de gens. Mais effectivement, on oublie quand même que les principaux revenus de Meta, bah, ça reste Facebook et Instagram. Donc ouais, on les enterre peut-être un peu vite. C'est-à-dire qu'ils dilapident de l'argent sur un truc qui peut-être ne marchera jamais, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'argent, en fait. C'est ouais. Surtout ça.
Mais ils dilapident, oui. C'était combien ? Ils ont dépensé 15 milliards. Ils ont eu 13,72 milliards de pertes en 2022. Ils imaginent qu'ils en auront plus en 2023, enfin, ils préviennent qu'ils en auront plus, uniquement pour Reality Labs, hein, pour leur développement de réalité virtuelle et augmentée. Donc, voilà.
Faut pas oublier, parce que chaque fois, on se fait souvent avoir... En fait, la bourse n'est pas du tout... En fait, elle en a un peu rien à foutre des innovations et même le futur à 10 ans. Elle est aussi sur les résultats immédiats, tangibles, et les prospectives 1 ou 2 ans. Est-ce que Meta va continuer à faire de l'argent avec la pub traditionnelle ? Oui. Ils se préoccuperont la bourse de la VR plus tard quand il y aura de l'argent à se faire. Et quelque part, la bourse va préférer un Meta qui cherche quelque chose, même si c'est bullshit et que ça donnera rien, qu'un Meta qui stagne. Donc, c'est là où la lecture de la bourse peut être un peu différente par des technophiles ou par des économistes.
Ouais, enfin, tu dis ça, mais je peux te dire que les analystes étaient quand même très inquiets des dépenses que faisait Zuckerberg dans la réalité virtuelle qui rapportait rien. Alors que ce qui, à mon sens, ce qui s'est passé peut-être, c'est que on a vu quelques chutes du nombre d'utilisateurs de Facebook ces derniers mois ou dans l'année 2022. Et puis, on s'est rendu compte très vite que, en fait, c'était anecdotique et que, du coup, on a toujours 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, 2 milliards sur Instagram et qu'il y a forcément de l'argent à se faire. Les lignes bougent dans la guerre du streaming. Alors, d'abord, il va falloir arrêter de partager ses mots de passe sur Netflix. Il y a eu un petit peu de confusion sur la méthode de contrôle de Netflix. Ils n'ont rien implémenté encore en Occident. C'était des trucs qui se passaient en Amérique latine. On va voir comment ça se passera quand ça sera effectivement annoncé. À ce stade, on ne sait pas comment ça se passera, comment ils vont contrôler. Est-ce que vous utilisez le Wi-Fi, votre Wi-Fi une fois par mois, etc. On ne sait pas. Donc, si vous avez vu des choses comme ça, ce n'est pas encore acté. Mais plus intéressant encore, c'est Disney+, et Bob Iger, qui, de retour à la tête de Disney, serait en train d'affaiblir Disney+, en, d'une part, donnant des séries Star Wars à Netflix, c'est possible, et réduisant les priorités de Disney+, en priorisant plus le cinéma et les sorties au cinéma, qui avaient été moins importantes. Bon, c'était aussi pendant la pandémie, mais malgré tout. Apple fait du sport, ok, ça on s'en fout. Et puis, il y a aussi une news intéressante, une discussion, ou plutôt un groupe de travail entre Universal Music et Tidal, un service de streaming de musique, pour essayer de comprendre comment mieux payer les artistes. Vous allez me dire, oui, alors je sens l'entourloupe, c'est possible, mais on s'est rendu compte que, au-delà du fait que les artistes sont mal payés par les sociétés de streaming, pas parce qu'ils ne rentrent pas beaucoup d'argent, enfin parce qu'ils n'envoient pas beaucoup d'argent au label, mais parce que les labels s'en gagnent une bonne partie, s'en gardent une bonne partie, il y a des gens qui critiquent les modèles de partage de streaming, de revenus de streaming, parce que, en fait, tout va dans un pot commun. Et donc, moi, même si j'écoute un artiste indépendant uniquement, eh ben, mon argent va dans le pot commun et cet artiste ne verra pas l'argent de mon abonnement à moi. Et beaucoup se disaient, eh ben, le artiste listener first, je ne me souviens plus du terme, mais cette méthode devrait permettre aux artistes de gagner plus. Et on s'est rendu compte avec des tests qu'en fait, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, il y a une réflexion à avoir et je suis curieux de voir que UMG s'y intéresse parce que peut-être qu'ils se rendent compte que du coup, il y a des artistes qui ne veulent pas passer par eux ou qui publient eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la motivation de UMG pour se dire « il faut mieux payer nos artistes » ça me surprend. Mais en tout cas, ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis, l'application de contrôle d'âge en France pour l'accès aux sites porno se précise, ça sera bien une application. En fait, on avait pensé à d'autres méthodes, l'envoi de SMS, l'utilisation de cartes de paiement. Ça sera bien une application qui fera l'intermédiaire entre le site et la personne qui veut y accéder. Ça m'inquiète toujours ce genre de truc. On n'a pas les détails du fonctionnement, mais en fait, ça déporte le problème. OK, les sites n'auront pas le document qui prouve votre identité, mais le gestionnaire de l'application, lui, l'aura. Et donc, il faut que ça soit vraiment verrouillé. Et en plus, bon, qui va utiliser une application comme ça? Je ne sais pas, peut-être que des gens l'utiliseront. Mais la sécurité du truc aura intérêt à être bonne, quoi. Encore d'autres infos. Un juge aux États-Unis a rejeté la demande de la FTC de bloquer l'acquisition de Weavin par Meta. C'est la FTC qui avait fait une action pour empêcher la croissance des GAFAM en ciblant Meta spécifiquement, et ça a été rejeté. Ça pose des questions sur une action similaire de la FTC pour le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. On verra ce que ça donne, on n'y est pas encore du tout, mais ça, c'est un signal qui ne va pas dans le sens de la FTC. Et puis, bon, il y a quelques news du côté de Twitter sur laquelle on va passer très rapidement. Twitter Blue est disponible en France. Aux États-Unis, après 2 mois, il y a seulement 180 000 abonnés. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à Twitter, quelques dizaines de millions de dollars. Quand on sait qu'ils doivent rentrer 5 milliards par an, ça ne change pas beaucoup de choses. Et puis surtout, ils ont annoncé la fin de leur API gratuite. Et puis, suite à une levée de bouclier de petits développeurs qui avaient des bots rigolos et sympathiques sur Twitter, Elon Musk a promis une API dédiée pour ce type de compte, à voir si ça se concrétisera ou pas. Les prix de l'API semblaient être un petit peu démesurés, mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne quand ça se précisera. Là encore, typiquement, comme c'est le cas typiquement avec Twitter, on nage un peu dans l'incertitude, quoi. Et voilà, je crois qu'on a tout couvert. On a eu des discussions à bâton rompu qui étaient passionnantes. Et je vous remercie de m'avoir consacré un petit peu de votre temps et de votre estomac. Et je vais vous laisser filer pour que vous puissiez manger.
Je suis en train de me digérer, moi, déjà. Donc...
Pour l'instant, c'est pas GPT qui nous file à bouffer. Hein.
Voilà, tu vois, tous les boulots vont pas disparaître, Jérôme.
Eh ben oui, agriculteur, exactement.
Exactement, agriculteur, cuistot, tout ça, les beaux métiers, tu vois.
Voilà.
Merci.
Les métiers de la première ligne, comme on dit.
La première ligne. Merci, Jérôme. Ouais, merci, ouais. Cédric. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver? Cédric, lance-toi.
Bon, moi... Bah, sur Twitter, tiens, voilà. @Cédric de Lucas. Donc, 2, c'est le chiffre 2. Lucas et Lucia. Voilà.
Magnifique, Jérôme. Où es-tu?
Bah, vous pouvez me retrouver tous les matins sur Twitch pour notre matinale Le Mug à partir de 8h sur la chaîne Nowtech Team et sinon notre chaîne YouTube Nowtech.
Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Mastodon, NotPatrick @mastodon.social. Et vous retrouvez tous les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission, y compris la newsletter d'ailleurs, si vous voulez une newsletter sympathique sur ma veille tech. Et patreon.com/rdvtech, évidemment, vous le savez. Quand les clés arrivent dans le bol, ça fait cling. Quand la machine à café fait glouglou, vous vous dites Patrick, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 500. Wouhou ! Je suis déjà super excité.
Yo !
Ouais !
Ciao tout le monde !
Ciao tout le monde !
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.